probablement un drôle de réveil pour vous, mais dans ce paysage paisible d'un pont sur la Seine, à Montereau, je vais évoquer une vie de bataille. C'est peut-être bon réveil, enfin en tout cas, c'est plus évident pour un auditeur de France Culture normal que d'écouter Sambre et Meuse par la musique de la garde républicaine. Mais en tout cas, j'espère que ça sera aussi dynamisant. Ici a eu lieu, à Montereau, une des grandes batailles de la campagne de France en 1814. Et Napoléon, qui commençait, était aussi écrivain, en a très bien parlé, parce qu'il avait été soldat lui-même. Sa prose, dans l'espèce de sécheresse de plan d'opération écrit au 18e, qui est la sienne, échappe à toute critique. Il suffit d'un peu d'imagination pour retrouver derrière ces phrases sèches la vie, transmise par les ordres et le communiqué à la manière d'un paléontologue qui reconstituerait l'animal à partir d'une simple dent. Par exemple, à propos de la bataille de Montereau, en 1814, il écrit « Le général Pajol, qui marchait par la route de Melun, arriva sur ses entrefaites, exécuta une belle charge, culbuta l'ennemi et les jeta dans la Seine. » Il n'y a pas grand effort à faire pour entendre le craquement des selles, le froissement des lames, le halètement sourd de la charge et les bruits de la peur et du courage. On dit, vous savez, que Murat chargeait à la tête de ses cavaliers en hurlant pour lui-même pour dominer sa peur « Suivez-moi, j'ai le cul rond comme une pomme, j'ai le cul rond comme une pomme, j'ai le cul rond comme une pomme. » À cette affaire de Montereau, moins connue que celle de Champaubert et de Montmirail, deux gants jetés dans un tiroir ouvert, comme disait un poète de troisième ordre, le général Pajol honora sa légende de hussard. C'était le fils d'un avocat de Besançon qui s'était lancé dans l'aventure révolutionnaire pour y mener cette vie de sabreur qui n'était pas le moindre des avantages de la vie révolutionnaire, avant de se rallier à l'Empire et d'y prendre des redoutes, des villes et des ponts, un colosse aux épaisses nageoires, toujours en avance sur l'ennemi, et pour finir, paré du titre de héros de Montereau. Les nageoires, je le précise pour les auditeurs, je dois dire que j'ai dû vérifier moi-même, les nageoires étaient cette espèce de grosse rouflaquette énorme que portait un certain nombre de personnalités de ce temps. On distribuait jusque dans les années récentes aux élèves officiers de Saumur un manuel du général de Braque, intitulé « Avant-poste de cavalerie légère », et dont on disait qu'il avait été écrit dans nombre de ses parties sur le modèle de Pajol, lequel ressemble aussi au fournier Sarlovès dont Joseph Conrad a fait le portrait dans le duel. Pajol ne pouvait pas s'empêcher de charger. Même après Waterloo, il avait proposé à Napoléon, déjà passablement défait, de tomber sur le flanc des Anglo-Prussiens avec 40 000 hommes qui étaient restés en réserve, et puis revenu à Paris d'organiser la défense de la ville jusqu'à sa destruction complète. La Restauration, qui n'en avait pas l'usage, le fit se murer dans un silence orgueilleux à la Pontcarral jusqu'aux journées de juillet en 1830, qui lui permirent par un coup de main digne des exploits de sa jeunesse de s'emparer de Rambouillet pratiquement tout seul. Il devait mourir peu après, ayant reçu plus de blessures qu'aucun général à ce jour, et conquis absolument tous ses grades de soldat à général dans les combats, en regrettant simplement à la minute de sa mort qu'un boulet ne lui ait pas brisé les os quelque temps auparavant. Sur le pont de Montereau où nous sommes, on voit un bas-relief de la statue équestre de Pajol qui est l'œuvre d'un de ses fils et qui montre la charge célèbre qui, comme beaucoup de charges, ne servit absolument à rien. Dans cette charge, le 3e régiment de Hussards a joué un très grand rôle et ce régiment existe toujours. L'étendard sur lequel du 3e Hussards, sur lequel il y a le nom de Montereau, eh bien, je l'ai vu il y a à peu près 10 ans au cours d'une prise d'armes à Kaboul, flotter en Afghanistan lorsqu'il y servait et jeter les notes claires du pont de Montereau dans le bourbier de sable et de fioul de la guerre industrielle entre les Afghans fumeurs d'opium et les Américains fumeurs de chanvre. Les hussards conservaient la tradition des buveurs de rouge. Montereau, en revanche, ne conserve aucun souvenir d'un personnage très étonnant qui s'appelle Adrien Guimard, qui était né dans cette ville en 1822 et qui devait mourir en 1870 dans Sedan assiégé par les Prussiens. Guimard est connu des historiens du droit par une brochure très amusante qu'on pourrait tout à fait ressortir aujourd'hui et qui s'appelle « Proposition tendant à rapprocher la morale et le droit dans la législation criminelle ». C'est en général ce que font les juges d'instruction et même les procureurs et même les juges du siège. Dans un style assez riche dans cet opuscule, Guimard constate que seul un petit nombre de péchés capitaux fait l'objet d'une répression conjointe de l'Église et de l'État, mais que par exemple la luxure n'est que partiellement réprimée par le droit criminel, ou la gourmandise, mais seulement lorsqu'elle conduit à l'alcoolisme. Et il déplore, de manière assez pince sans rire, que le code pénal reste absolument silencieux en revanche, sur la question de l'orgueil et sur la question de la paresse. Et donc, dans cette brochure, Guimard se propose de faire modifier le code pénal afin de réprimer l'orgueil et la paresse. Il conçoit par exemple une échelle des peines qui annonce les travaux d'intérêt général et qui porte en général sur les gens qui gouvernent, les ministres, les députés. Par exemple, ça donne interdiction de prononcer des discours pour une durée maximum d'un an, retraite obligatoire chez des religieux cloîtrés, participation à des banquets d'électeurs avec interdiction de parler en général et obligation de ne parler qu'à ses voisins immédiats. Et quant à la répression de la paresse, elle est envisagée de manière plus simple encore, puisque Guimard propose d'astreindre les évêques, les maires, les ministres et les préfets à descendre dans la mine pour quelques jours ou à débiter du mètre de tissu au comptoir des grands magasins. La fin de Guimard, qui est un personnage original, a été assez tragique, puisqu'il avait eu une fille d'une danseuse de l'opéra, et au début de la guerre franco-prussienne de 1870, il apprit que sa fille s'était engagée aux armées et était cantinière dans un régiment de zouaves. Fou d'inquiétude, c'était sa fille unique, il se précipite, il abandonne son poste, il est pratiquement révoqué du parquet, il rejoint la zone des combats, il ne la retrouve pas, et il finit par mourir à Sedan, un obus lui ayant emporté la moitié du bras, il meurt de septicémie sur la presqu'île d'Ige. Sa fille ne s'était jamais engagée, et elle n'avait jamais quitté Paris, elle n'était jamais devenue cantinière, dans un régiment de zouaves, elle lui avait raconté des carabistouilles, elle était pensionnaire de maison close à Paris et devait peu après partir pour l'Argentine et disparaître en Argentine après avoir ramené la dépouille de son père, Adrien Guimard, au cimetière de Montereau, dans le froid de l'hiver de 1871. Je dois à la vérité de dire que Vincent et moi venons d'errer pendant 45 minutes dans le cimetière de Montereau sans réussir à trouver la tombe d'Adrien Guimard, que par son sens aigu de la justice et de la moralité, nous recommandons tout de même à vos prières.